set.
Le jour de son record, est-ce un jour comme un autre? Qu'est-ce que ça change? Est-ce qu'avec le temps on chérit ce jour-là? Est-ce qu'on en oublie les contours? Que reste-t-il des émotions, des sensations, des années après? Est-ce vraiment le jour le plus marquant d'une carrière? Toutes ces questions, nous les posons aux plus grands athlètes français dans la deuxième saison de cette série intitulée « Records très personnels ». Bienvenue à tous, je suis Annabelle Rollin et je suis ravie d'accueillir l'ancienne patronne française de la perche, Vanessa Boslak. Bonjour Vanessa.
Bonjour.
Vous avez battu de nombreuses fois le record de France, le plus haut à 4,70 m, une barre que vous avez franchie trois fois. Pourtant, il y en a une qui compte plus que les autres, vous allez nous raconter pourquoi. Avec moi, pour explorer ce moment très particulier dans votre carrière, c'est Nicolas Herbelot, grand reporter athlé au magazine L'Équipe et à l'époque des faits, au journal L'Équipe. Bienvenue Nicolas.
Bonjour.
Vanessa, on peut dire que vous faites partie des pionnières du saut à la perche féminin en France. Vous avez battu pléthore de records depuis toute gosse, le premier en minime. Chez les seniors, j'en ai compté 22, 11 en salle, 11 en plein air, de 4,32 m à 4,70 m. 4,70 m, ça parle dans le gratin mondial. La première fois que vous l'avez passé, c'était à Malaga, en 2006. Est-ce que vous vous en souvenez?
Oui, je m'en souviens parfaitement. Moi, c'était la Coupe d'Europe. Hein, et puis, les périodes de mois de juin, en général, on est plutôt bien préparé. Là, c'était fin juin. Donc, on touchait la fin de la préparation estivale pour le championnat qui allait arriver après au mois de juillet. Donc, je suis arrivée toute fraîche, on va dire, parce que c'était... C'est les premières compétitions, hein, et puis je m'en souviens bien parce que j'ai eu des très très bonnes sensations sur cette compétition. Tout est passé quasiment au premier essai, et avec beaucoup de facilité et assez d'aisance au-dessus de la barre, devant, derrière, au-dessus, donc c'était très agréable. Et je sentais parfaitement ce que je faisais techniquement. Donc voilà, 70 passes, et puis après, je me préparais pour 4,80, parce qu'on était deux à avoir franchi cette barre avec Monika Pirek, la polonaise, que j'apprécie bien d'ailleurs, c'est une chouette coéquipière adversaire, mais en tout cas très sympa. Et je me souviens que quand je reviens vers ma marque de départ, le caméraman tape dedans. Et du coup, je suis un peu perturbée parce qu'à ce moment-là, je ne me souviens plus de combien de pas j'avais pu reculer. Donc là, j'ai commencé à être un petit peu stressée, la situation, parce que je changeais de perche, j'allais prendre une perche un petit peu plus rigide. Et puis là, j'allais m'attaquer surtout à une barre qui était quand même assez importante, 4,80. Donc voilà, j'ai dû me ressaisir un petit peu. J'ai fait un premier saut qui n'a pas été concluant parce que je n'étais pas vraiment sur mes marques. Puis avec l'énervement, ça a été un petit peu perturbé. Et puis un deuxième saut un petit peu mieux. Puis le troisième qui aurait dû être entre guillemets le premier. Donc voilà, j'ai toujours un petit peu cette frustration d'être passé à côté, si vous voulez, ce jour-là d'une barre un petit peu plus importante. Mais en tout cas, de bonnes sensations et puis très heureuse d'avoir fait ce record de France à 70 ce jour-là.
Mais je vais faire une parenthèse, mais passer de 70 à 80, c'est beaucoup, non? Comme montée de barre.
C'est beaucoup, et en même temps, mon saut à 70, c'était vraiment très bien passé. J'étais même surprise, si vous voulez, quand j'avais passé cette barre, parce qu'il y avait vraiment de la place. Et voilà, 80 dans la foulée, pourquoi pas? Des fois, ça arrive de prendre 10 cm sur une compétition quand vraiment on est bien. Et voilà, ce jour-là, ça aurait pu le faire, mais il y a eu une petite péripétie aussi qui m'a un peu perturbée.
D'accord. Donc la deuxième fois, c'était en 2007, l'année d'après.
À Osaka.
Osaka, oui. Championnat du monde.
Oui,
donc,
c'est
si
vrai.
Des souvenirs sont assez clairs, parce que là, c'était très limpide.
Oui, je m'en souviens très bien aussi. Je pense que j'ai été plutôt surprise à ce moment-là de faire 70, parce que j'avais eu un été où j'avais passé mon diplôme de kiné, donc j'étais allée un petit peu moins à l'entraînement. C'est vrai qu'il y a des périodes où j'y allais que trois fois semaine, parce que je préparais mon oral et puis les écrits. Donc, peut-être que j'avais un petit peu plus de peps, finalement, quand je suis arrivée. La préparation a été un petit peu plus orientée sur de la technique et de l'explosivité. Et surtout, cette année-là, je suis arrivée, on va dire, sans pépins physiques. Pour une fois, j'avais pas de douleur de tendon d'Achille ou quoi que ce soit. Donc, Donc voilà, j'ai pris les barres un peu les unes après les autres, comme ça venait, sans trop de pression, parce que finalement, je savais que la préparation n'avait pas été idéale. Et finalement, ben, ça a été plutôt sympa comme performance. Et puis une cinquième place, donc c'était bon à prendre. Et puis ça a égalé de nouveau mon record de France, donc parfait.
Tu avais aussi tenté 80 après.
J'avais également
tenté un saut à 75, puis après, j'en avais gardé deux pour 80.
Voilà, exactement, parce que du coup, il y avait deux autres perchistes, dont une tchèque, qui avait battu de 10 cm son record ce jour-là, et qui a fait troisième de la compétition, et Monika Pirek, de nouveau la polonaise, qui a fait quatrième. Et elles ont fait toutes les deux 75. Je me souviens que Monika avait touché au troisième essai, la barre avait décollé des taquets, était retombée, c'était stabilisé, donc... Waouh, c'était passé. Et là, il fallait tenter 80 et passer 80 pour espérer une médaille de bronze. Donc, c'est ce que j'avais fait à l'époque. Et puis là, peut-être qu'avec le manque d'entraînement, finalement, je manquais un peu de jus. Et puis, c'est pas passé. Mais en tout cas, c'était des sauts sympathiques. Et puis, j'avais pu prendre des perches un petit peu plus rigides. Donc, ça m'avait permis de tester ces perches-là en compétition, en tout cas sur une grande compétition. Donc, c'était bien.
C'était un peu avant la galère.
Oui, c'était avant la galère.
Parce qu'il va falloir en parler, mais si tu as retenu Istanbul comme tes 4,70 préférés,
ouais.
C'est parce qu'il y a eu entre justement Osaka en 2007 et Istanbul des années de galère.
Ouais, il y a eu une période très compliquée pour moi parce que je sors des Jeux Olympiques de Pékin. L'hiver 2009, on me propose de faire un stage d'oxygénation au ski. À l'époque, c'était... le père Collet qui organisait ça avec ses athlètes de Rhône-Alpes. Et il avait proposé à Romain Ménil et puis à moi-même de venir pour faire un peu parrain et marraine de ce stage. Donc à la base, comme je lui avais promis l'année d'avant, je me suis sentie un petit peu obligée, si vous voulez, d'y aller. Sachant que j'avais encore une petite douleur au niveau d'un pied. Mais comme j'avais donné ma parole, j'y suis allée. Et forcément, quand on est là-bas, à un moment, on se laisse tenter pour aller skier. Donc à la base, je partais pour faire un petit peu de snow. Et puis finalement, de fil en aiguille, j'ai pris des skis. Et j'ai chuté, on va dire, bêtement sur une piste rouge à bosse. Et j'ai su, à ce moment-là, instantanément, que vu la douleur que j'ai eue lors de ma chute, que je m'étais rompu les croisés. Et là, c'est vrai que je suis partie pour 2 ans de galère, parce que j'ai eu un enchaînement de plusieurs chirurgies sur mon genou. Je n'ai pas été très, très bien opérée sur la première chirurgie. On m'a fait un DIDT double faisceau TLS. Alors, c'est un petit peu technique, mais au lieu de faire un tunnel dans le tibia et un dans le fémur, à cette époque-là, c'était une technique qui venait des États-Unis. Ça faisait 3 mois que le chirurgien testait ça en France. Mais je n'étais pas au courant lors de l'entretien. On partait sur un DIDT classique. Et quand je me suis réveillée, j'ai vu à la radio qu'effectivement, j'avais 2 tunnels dans le tibia, 2 dans le fémur. Et que j'avais des vis en titane qui étaient très très épaisses. Et en fait, j'ai pas du tout supporté ce type de chirurgie parce que ça m'a créé beaucoup plus de douleurs. Et j'ai eu un peu une petite migration des vis. C'est venu sous mon plateau tibial et donc j'ai eu des douleurs assez conséquentes, des douleurs osseuses assez conséquentes. Donc j'ai été réopérée à plusieurs fois, à plusieurs reprises, dont une en Allemagne avec le docteur Bonisch, c'était un médecin du Bayern. Bon, il m'avait bien dit que c'était une chirurgie un peu particulière que j'avais eue en France et qu'il ne savait pas trop comment gérer la suite. Et finalement, j'ai été opérée au Qatar par Philippe Landreau, qui m'a vraiment sauvée. C'est un médecin qui opérait avant en France, dont à la clinique du sport. C'était la porte juste à côté du chirurgien qui m'avait opérée. J'avais pas frappé à la bonne porte. Et en fait, il m'a fait, qu'il m'a retiré cette vis en titane, il m'a repositionné le transplant et il m'a fait une greffe osseuse, donc il m'a prélevé de l'os iliac. Et un peu comme un maçon, il est venu déposer tous les copeaux d'os à l'intérieur des tunnels. J'ai attendu 6 mois avant que la greffe prenne correctement et puis j'ai seulement pu à ce moment-là reprendre l'entraînement. Donc ça m'a repoussé, on va dire, au mois de juin 2011, donc de mars 2009 à juin 2011. Je cours pas, très peu en tout cas.
Les docteurs étaient même pessimistes sur la possibilité que tu ressautes un jour.
Je pense que tout le monde était pessimiste sur mon sort, quoi. Ça allait des médecins. J'ai pas, d'ailleurs, durant toute cette période-là, j'ai même pas eu un coup de fil du médecin fédéral. Hein. C'est, je pense que quand on a des périodes de blessures comme ça, on est un peu les oubliés. Donc ça, c'est très dur à gérer aussi. Le coach, finalement, Gérald Baudouin, m'a quand même bien soutenu dans cette période. Il a continué à m'emmener en stage, je continuais à venir à l'INSEP, hein, même si au bout de 2 ans, bah, finalement, vous n'avez plus trop votre entrée à l'INSEP, parce que s'il n'y a plus de performance, il n'y a plus de raison d'être là-bas sur le pôle. Donc lui, je le remercie parce qu'il a quand même cru en moi, et il m'a aidé tout le long.
Il était passé par là, Gérald.
Oui, il a eu des ruptures aussi, de tendons d'Achille à 2 reprises.
Qui ont bousillé sa carrière.
Exactement. Donc du coup, je pense que là, voilà, il a su me comprendre. Et puis c'était une période qui était quand même difficile pour moi. Il a su se mettre à ma place, je pense. Et puis voilà, en fait, progressivement, j'ai repris. Alors au début, j'espaçais énormément mes séances. Disons que je faisais un tour de stade, je récupérais pendant 2 jours. Je voyais un petit peu comment mon genou réagissait. Et au fur et à mesure, ben, du coup, j'agrandissais un petit peu mon périmètre de course, un peu plus d'intensité aussi sur mon genou, jusqu'à reprendre une perche, on va dire, mi-juin, pour faire des tout petits aides éducatifs dans le sautoir. C'était vraiment c'était de la perchouille, hein. C'était vraiment de la perche de débutant, sauf que ben, moi, j'étais très heureuse à ce moment-là de pouvoir recommencer à sauter. Et puis, finalement, ma première compétition, je crois que ça a été fin juillet, et j'ai dû faire 4 mètres. Donc, c'était pas une grosse performance. Mais en tout cas, pour une reprise après 2 ans et demi d'arrêt et en n'ayant jamais, enfin, presque pas sauté durant cette période, ben c'était vraiment. Bon, après, je savais qu'il y avait beaucoup de choses à faire, hein, parce que de 70 à passer à 4 mètres, bon, c'était. C'est pas du tout le même niveau, mais.
C'était déjà une victoire.
Pour moi, c'était déjà une victoire de pouvoir sauter en n'ayant pas trop mal au genou. Vous voyez, c'était quand même quelque chose. Donc même si c'était pas une grosse performance, ben voilà, c'était. J'ai commencé à remettre la première pierre et puis progressivement, ben, je me suis réentraînée. J'ai fait des séances de musculation très spécifiques. Je me suis entraînée avec Éric Lepeuple. C'était mon entraîneur quand j'étais dans les catégories jeunes dans le club de Lille Métropole. C'est un ancien lanceur de poids qui a lancé des magasins comme Top Performance et qui est passionné de préparation physique. Donc avec lui, on s'est bien entendu. Je le connaissais très bien. Il a des belles valeurs en plus. Donc c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie. Et du coup, on faisait tous les jours une séance de musculation spécifique où j'associais bras-jambes, mais sur 5 jours semaine. Donc ça m'a vraiment permis de progresser aussi très rapidement. Et puis du coup, première compétition, mois de décembre, l'hiver 2011. Ben là, je fais mes minima pour les Jeux Olympiques. Je fais 4,50 sur ma première compète. Et puis, ben, du coup, ben, ça me permet de reprendre confiance. Et quelque part, pour moi, c'était déjà une petite victoire de pouvoir faire des minima comme ça sur une première compète en salle, alors que je n'avais pas sauté depuis 2 ans et demi. Quoi. Voilà. Quelle histoire.
Quelle histoire, ouais, parce que peu de temps après, c'est 4,50, donc tu refais 4,70 ouais. Au championnat du monde.
Au mois de mars, trois mois après.
À Istanbul, voilà. Le 11 mars pour être précis. Et si j'imagine que tu as retenu de tes 3 records cette date-là, c'est parce qu'il y a eu tout ce que tu viens de décrire avant, et aussi parce que c'est à des championnats et que c'est à ta médaille internationale parmi les seniors. Tu en avais eu pas mal dans les catégories jeunes.
Oui, c'est vrai. Et puis, bah pour moi, c'est vrai qu'Istanbul, j'y vais un petit peu bah, la fleur au fusil, parce que c'est ma première compète internationale depuis les Jeux Olympiques de 2008. Donc, on est 4 ans après quasiment, et quelque part, je me dis, bon, j'ai rien de spécial à jouer. J'étais, je crois, une des dernières performances, d'ailleurs, sur la feuille de compète. Donc voilà, j'y vais en étant plutôt décontractée. Je me souviens très bien que la veille de la compétition, parce que je suis très passionnée par tout ce qui est hypnose, vous voyez, ce genre de. Toutes les médecines un petit peu parallèles, tout ça, ça me plaît beaucoup. Et j'avais, pendant la période où j'avais énormément de douleurs au genou, je m'étais formée pendant 1 an à tout ce qui était l'hypnose médicale, donc comment arriver à faire passer ces douleurs, hein, voilà, sur des techniques d'auto-hypnose. Et c'est ce que j'ai fait un petit peu la veille de ma compétition, donc je me suis mis. Dans un état un petit peu second, puis j'ai imaginé le lendemain comment pouvait se dérouler justement cet événement. Et ce qui est très marrant, c'est que le lendemain, ça s'est un peu passé comme je l'avais un peu rêvé la veille. Donc, sans stress, en étant présente dans la compétition, mais en même temps en étant ailleurs. C'est très bizarre, j'avais pas trop de notion de temps non plus. Et j'étais comme détachée. Et donc c'est vrai que tout s'est passé merveilleusement bien, parce que tous mes sauts sont passés au premier essai.
Même 470.
Ouais, voilà, et vraiment en étant très détachée de ce qui se passait. Et c'est seulement à partir de 70, quand je passe la barre, que bah, je réalise vraiment la performance. Je me dis, super, j'arrive à égaler mon record. Ça fait quelques mois seulement que j'ai repris l'activité, vraiment. Et c'est pareil au niveau technique. Je me souviens exactement de tous les mouvements que j'ai pu faire, surtout à l'approche du butoir et à l'impulsion. Et j'ai eu, à ce moment-là, l'impression que le saut était long, durait un certain temps. Et que tout était décortiqué. C'est très
étonnant,
comme au ralenti. Mais vraiment, je sentais exactement tout ce que je faisais dans les moindres détails et pas une vitesse normale. Mmh. Et donc ça a été vraiment quelque chose d'incroyable. J'ai jamais ressenti derrière. Ça a été un moment bizarre.
Est-ce que c'est ce qu'on appelle être dans la zone ? Enfin, ce qu'on appelait être dans la zone, maintenant on parle du flow.
Ben, je crois
que c'est... Ce sentiment où justement tout s'arrête parce qu'on est en maîtrise absolue.
Ben, je crois que je touchais peut-être un petit truc comme ça, voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Et ce qui est... C'est pareil, quand mon entraîneur me demande à un moment de mettre les poteaux à 70, dans ma tête, c'est comme si j'avais vu le chiffre 60 s'inscrire. Ouais. Et donc, au moment où je donne la distance des poteaux, hein, je pars sur mon idée. Donc, je reste à 60. Et en fait, ce saut-là, il est tellement, on va dire, ric-et-rac sur 70 que ça passe, on va dire, au centimètre près, finalement. Et le fait que je suive un peu mon intuition, bah, ça m'a permis de réaliser aussi la performance. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui ne s'est pas reproduit derrière. Mais en tout cas, l'intuition a été présente au beau moment aussi.
Parce qu'à 70, ça ne serait pas passé
non.
Au niveau
ouais,
de profondeur, en fait.
Les 10 cm de profondeur
auraient
fait tomber la barre. Mmh. Et là, c'est passé au centimètre près, quoi, quasiment. J'ai même frôlé en redescendant. Donc, si j'avais mis 70, c'était plié. Quoi. Je serais passé à côté. Donc, ça aussi, c'est étonnant.
Ouais. C'est une expérience,
ouais,
en fait,
c'est
ce concours.
C'est génial. Ouais. Mmh. Et à quel moment tu réalises... Parce que moi, j'étais présent à Istanbul et je me souviens, je te vois pleurer sur les petits bancs.
Ouais.
Parce que tu réalises à un moment donné, dans le concours, que vous n'êtes plus que trois en lice.
Oui, parce qu'en fait...
Le concours n'est pas terminé, mais tu sais que tu seras sur le podium.
Comme j'étais, je pense, détachée, à ce moment-là, je ne me suis pas rendu compte qu'on restait trois athlètes. Donc, c'est à ce moment-là où Gérald, à un moment, me fait comprendre qu'on n'est plus que trois, que finalement, je crois que la pression est tombée à ce moment-là.
Mmh. Le relâchement.
Et oui, et je pense que par rapport à tout ce que j'avais vécu avant, la blessure, les 2 ans et demi de galère, à me faire opérer 4 fois dans la foulée, enfin... Ça a été quand même une période très compliquée, très dure, nerveusement. Parce que plein de fois, j'ai pensé à arrêter finalement et j'étais désespérée avec la douleur qui était constante. On devient un peu fou quand même avec la douleur. Hein. Et là, ça a été une revanche incroyable. Que ça se passe là, quelques mois après la reprise. Et de cette façon, ça a été... sachant que plein de personnes m'avaient enterré. Donc voilà, ça a été une belle revanche.
Et comme Oli Blisdale, ce jour, parce qu'il y en avait donc deux autres sur le podium,
oui,
comme Oli Blisdale n'était pas passée au premier essai comme toi, elle sera classée derrière toi, elle n'ira pas plus
vrai.
Haut.
Ouais.
Et il y avait le monstre.
Elena Izinbayeva, c'était sa première compétition aussi.
Ouais,
parce qu'elle a eu un arrêt de 2 ans, je crois, sur cette période-là.
Ouais.
Et c'est pareil, elle, c'était son retour à la compétition et elle fait 80.
Ouais.
Voilà.
Toi, tu ne pouvais pas aller plus haut. Tu avais tout mis, tout était retombé, toute l'énergie.
Alors.
Moi,
en fait,
essayé, hein, mais...
finalement, je crois que donc la blessure du genou quelque part m'a quand même comment je vais dire ça, elle m'a quand même amputée d'une jambe. Avec du recul, je n'ai jamais retrouvé la force que j'avais dans les jambes avant que j'avais, enfin avant cette opération. J'ai jamais retrouvé les passages que je pouvais avoir aux 15 mètres. J'avais quand même 40 cm d'écart après.
Ah oui.
Et j'ai eu, finalement, toute ma fin de carrière, quand même une douleur résiduelle au niveau de mon genou. Donc, au lieu de partir arrêtée, comme je faisais sur les compétitions précédentes, pendant longtemps, j'avais un départ lancé pour essayer d'avoir moins de tension sur les premières foulées. Donc ça aussi, ça m'a créé aussi des perturbations dans ma course d'élan. Et cette douleur récurrente aussi m'a quand même bien embêtée sur les séances de musculation, les séances de saut à l'impulsion. Enfin, donc quelque part, j'étais nouvelle parce que j'avais traversé toute une période, on va dire, difficile. Mais il fallait que j'opte pour de nouvelles facultés. Et je pense que j'ai essayé d'axer plus sur de la technique à cette période-là que sur la force. J'étais plus en force avant, moins technique. Ça passait, c'était bien. Mais finalement, j'ai compensé par la technique, essayé de faire le geste le mieux possible pour atteindre quasiment le même niveau, quoi.
C'est-à-dire que tu penses que si tu avais dû un jour atteindre les 4,80 m et plus, ça aurait été plutôt en 2006, dans ces années-là, plutôt que là tu tirais le maximum du parti.
Je pense que j'aurais eu plus de facilité avant 2009, en fait, à réaliser cette performance. J'aurais pu, peut-être après.
T'as des regrets ?
Mais il aurait fallu que j'aie de meilleures conditions parce que j'ai été beaucoup blessée après mon genou aussi. J'ai eu beaucoup de problèmes de tendon d'Achille et j'avais pas la même extension au niveau du genou gauche. Alors, je pense que mécaniquement, j'ai dû compenser et j'étais tout le temps dans cette. Je pense que quand. On est un peu peut-être des Formule 1 dans le sport de haut niveau et mine de rien, quand il y a un grain de sable à un endroit, en permanence, on est embêté, quoi. Et là, moi, c'était le cas après. J'ai jamais eu une année, finalement, où j'ai vraiment été tranquille sur une année complète. J'ai jamais fait une saison, une année où j'ai fait l'hiver, l'été, en n'ayant aucune tension au niveau des tendons d'Achille. Donc, c'était dur de rester à un niveau, sachant que pendant 5 mois, tu vas pas courir ou tu vas faire très peu de choses. Donc, il faut que tu remettes l'accent sur les quelques mois qui arrivent. Et puis, à force, en permanence, t'as des douleurs et ça devient épuisant, quoi.
Est-ce que ta chance, c'était quand même pas d'avoir aussi tes études à côté ? Je parle par rapport à tous ces moments difficiles. Tu disais, dans ces cas-là, j'en profitais pour...
Disons que ça permet d'avoir quand même un équilibre, le fait d'avoir des études, de savoir qu'on décroche un diplôme pendant sa carrière sportive. Ça, c'est vrai que c'était un plus. Après, quelque part, j'ai toujours su qu'il fallait prioriser les études au sport. Ça a été clair depuis le début. Alors peut-être parce que mes parents aussi me l'ont souvent dit. Mais après, quand vous êtes dans la performance, dans les compétitions internationales, on fait un peu les études parce qu'il faut les faire, mais l'objectif, quelque part, ça reste quand même la performance et le sport. Donc, j'étais aussi détachée de ce côté-là. Je savais que j'avais le diplôme et que je pouvais finalement, après, me concentrer pleinement sur l'activité. Mais c'est là que j'ai aussi la blessure et que la galère est arrivée, quoi. Moi, je crois que ce qui m'a tenue après, c'est d'aller à l'entraînement tous les jours, même en période de blessure. Je prenais sac à dos, j'allais à l'entraînement, je faisais tout ce que je pouvais faire et tout ce qui me faisait pas mal. Donc, finalement, tout ce qui était gym, j'ai peut-être gagné du temps ou j'ai été un petit peu plus performante dans des domaines finalement qui m'ont aidé après, qui ont compensé. Mais en tout cas, j'allais faire de la gym, je faisais tout ce qui était grimper de corde, des tractions, les renversés à la barre fixe, le gainage, tout ce que je pouvais faire. Pour rester aussi dans le milieu de l'entraînement. Parce que je pense que si j'avais décroché pendant plusieurs mois, ça aurait été quand même compliqué après de revenir et d'avoir la tête là-dedans, quoi.
Vous n'avez jamais, jamais lâché.
Il y a eu peut-être des périodes, une semaine, 15 jours. Mais finalement, j'ai gardé en fait cette dynamique.
Et justement, le fait d'être kiné, est-ce que, avec le recul que vous avez aujourd'hui, est-ce que vous auriez géré vos blessures différemment ?
Alors, en ayant fait d'autres formations après, comme l'acupuncture, la kiné du sport, où on abordait plein d'autres domaines, comme l'hydratation, comme les inflammations viscérales, etc. Des fois, avec du recul, je me suis posé la question, parce que je me suis dit que les problèmes de tendon d'Achille que je pouvais avoir, finalement, parce que souvent, j'avais mal à un tendon, puis l'autre arrivait dans la foulée. Et je me dis que peut-être, finalement, j'avais des problèmes d'inflammation, parce que je pense qu'il y a beaucoup de sportifs de haut niveau qui ont des problèmes inflammatoires au niveau viscéral et qui ne sont pas bien pris en charge. Parce que, pour être clair, à l'INSEP, on fait des examens médicaux, mais des fois, c'est pas suffisamment poussé, quoi. Je pense qu'il y aurait moyen de travailler avec des gens très, très compétents dans les différents domaines, mais que c'est pas forcément mis en place. Et ça, ça fait longtemps que je m'en suis rendu compte. Mais c'est pas forcément évident en carrière, quand on est jeune, d'avoir les bons contacts. On le sait finalement en fin de carrière, parce qu'avec toutes les péripéties qu'on a eues, ben voilà, on a testé plein de choses et on a eu plein d'expériences à droite à gauche. Et je trouve ça dommage. Et je trouve que aussi on n'a pas suffisamment d'interaction avec les anciens athlètes. Pareil, rien n'est mis en place au niveau de la fédération pour qu'on puisse avoir des échanges avec les anciens qui ont eu aussi leurs expériences et qui pourraient nous aider à avancer un petit peu plus vite.
Pour éviter que tous les jeunes, à leur tour, fassent le même, bah le voilà, même détour. Ouais.
Perdent du temps, des fois, dans des situations qui pourraient être résolues plus rapidement, en tout cas.
Quand tu passes 4,70 m à Istanbul, on se dit que c'est le début d'une deuxième carrière, tous. Toi, la première, j'imagine. Et est-ce que tu es frustrée par ce qu'elle a donné, finalement, derrière cette carrière?
Je pense que j'ai essayé de faire de mon mieux derrière, mais c'était tronqué, je pense, par rapport à cette blessure du genou qui m'a vraiment perturbée. Je me suis bien entraînée, je pense, avec Gérald. Les séances que j'ai pu faire aussi à côté en préparation physique étaient bien adaptées. Mais je crois que mon corps, au bout d'un moment, n'en pouvait plus. Ma tête, elle en pouvait peut-être plus de ces douleurs. Et progressivement, ça a lâché, quoi. Mais même si je voulais, j'étais très frustrée parce que j'ai toujours eu l'impression d'être détachée. Le corps et l'esprit n'étaient pas en symbiose. Ma tête voulait et mon corps me disait non. Donc j'étais en permanence contrariée et mécontente de ce corps qui n'était pas à la hauteur de ma tête. Et ça, c'était très frustrant. Donc voilà, après, ça, c'est vrai que ça s'est enchaîné. 2013, je me reblesse. Je crois que je me fais une lésion de la ponévrose plantaire. Je me déchire en pleine course. 2014, c'est encore les tendons d'Achille. 2015, je passe encore à travers. Et 2016, je me qualifie pour les Jeux. Mais j'arrive là-bas, j'ai fissure du tendon d'Achille, 3 cm. Galère, quoi. Galère là-bas. Et puis,
une de plus.
Ouais, et puis galère aussi avec le... Pour moi, je suis très mécontente du staff médical qui était mis en place là-bas avec l'ancien médecin, qui n'est plus d'ailleurs, qui normalement devait venir le matin de ma compétition pour me faire une injection de xylocaïne dans mon tendon d'Achille. On s'était mis d'accord avec l'ancien médecin de l'INSEP, Alain Frey. Et donc ça avait été convenu, tout était prêt pour que ce soit fait le lendemain matin, pour que je souffre un peu moins parce que...
C'était un anti-inflammatoire ?
Bah, la xylocaïne, c'est ça, c'est un antidouleur qui est positionné donc, au niveau du tendon, hein, au niveau de la zone. Ça m'aurait permis justement de faire ma compétition un petit peu libérée, un peu plus libérée de cette douleur qui était permanente. Et puis le matin de la compétition, bah, personne n'en vue, quoi, personne n'est venu. Il n'est pas venu en tout cas. Et on a essayé de l'appeler. Alors, il a dit qu'il était fatigué parce qu'il y avait eu un contrôle antidopage tard le soir, la veille au soir, et que du coup, il avait loupé le bus. Voilà. Enfin, lui, il a loupé le bus, mais moi, du coup, ça m'a vraiment perturbée. Je suis vraiment passée complètement à travers aussi de la compétition, très énervée, en fait, de voir que finalement, des athlètes qui arrivaient peut-être un petit peu diminués n'étaient pas du tout considérés par le staff. Donc, voilà, vous préparez votre compétition, vous serrez les dents, vous allez jusqu'au bout. Puis finalement, voilà, la personne qui est censée vous aider, elle vient pas ce jour-là, vous laisse tomber. Vous appelle même pas derrière pour vous dire qu'il y a eu un contretemps, qu'il est désolé, rien du tout. Je le croise 3 jours après, très, très occupé pour aller au bus du Club France. Donc, et puis la discussion que j'ai eue avec n'était pas du tout... a pas été du tout bienveillante. Parce que lors de la discussion, quand je lui dis que je l'avais attendu et que pour moi, c'était une faute professionnelle de pas venir sur ce genre de... Eh bien, il m'a dit, de toute façon, je crois que tu avais rien à jouer. Donc, j'ai trouvé ça très blessant. Il peut le penser, mais de là à le dire, je trouvais ça que c'était vraiment déplacé. Et donc, je lui ai bien dit de rester à sa place de médecin et que ça, c'était à voir avec les entraîneurs et que... C'était pas Madame Irma, en l'occurrence. Donc, bref, c'était un moment pour moi très, très difficile, cette fin de carrière, parce que finalement, je me suis arrêtée sur les Jeux Olympiques de Rio, avec cette très, très mauvaise expérience du staff médical. Voilà, donc c'est vrai qu'on est beaucoup d'athlètes de haut niveau à pas forcément après intégrer les fédérations ou ce genre de staff, parce que je pense que plus on avance dans l'âge et plus on est peut-être un petit peu écœuré de la façon dont ça se passe. Pardon, je suis un peu crue.
Non, mais il faut.
Mais voilà, enfin...
Il faut, parce que t'as tellement galéré avec les blessures que t'es en... et par ailleurs, ta formation te rend légitime pour en parler. Donc. Mais bon, la belle histoire de Vanessa Boslak, c'est cette histoire d'Istanbul. On est d'accord, et toi-même, tu as conscience qu'en revenant à ce niveau-là, en gagnant une médaille mondiale, après tout ce que tu avais traversé, c'était aussi un beau message envoyé à tous ceux qui galèrent avec les blessures et qui lâchent rien.
Oui, je pense qu'effectivement, il faut un moment, si on le sait au fond de nous, parce que moi, je pense que c'est vraiment ça qui m'a guidée, c'est qu'au fond de moi, même si certains me disaient l'inverse, j'ai toujours su, il y a toujours eu cette petite étincelle, et j'ai toujours su finalement qu'il y allait avoir un déclic, qu'il allait avoir quelque chose qui allait me permettre de passer un peu le cap. Et j'avais vraiment pas envie de m'arrêter à ce moment-là de ma carrière, parce que j'avais 26 ans. Bon, après, des fois, on choisit pas, hein, ça s'arrête quand ça doit s'arrêter, mais au fond de moi, il y avait quelque chose qui me disait de continuer. Donc, je pense que je me suis accrochée à ça. Alors, il y a des moments où j'étais un petit peu découragée, évidemment. Je pense que quand ça avance pas comme on veut, et puis quand ça met 2 ans et demi à revenir, c'est un peu long. Mais finalement, j'ai bien fait de m'accrocher, et puis cette performance-là, cette médaille, pour moi, elle est, par rapport à mon parcours, elle est exceptionnelle. Voilà. J'avoue que, bon, certains diront qu'une médaille en salle, c'est pas forcément extraordinaire, mais pour moi, à ce moment-là, ça a été un beau retour.
Et puis, il y avait des filles.
Oui, il y avait des filles. Bah, il y avait je crois qu'il manquait peut-être que la brésilienne, mais Mureur, sinon, tout le monde était là, quoi.
Et justement, Isin Baeva, dont tu parles, tu as fait un peu ta carrière. C'était quand même une époque, ça a été la plus grande perchiste féminine de l'histoire à ce jour, quoi. Est-ce que le différentiel était plutôt une source de motivation ou ça peut être inhibant quand...
Après, ça dépend sur les compétitions, hein, mais bon, c'est vrai que... On rigolait toujours parce qu'elle était performante en fin de saison. Elle arrivait à battre des records du monde encore fin septembre, alors que nous, on était bien sur les rotules. C'est vrai que sa performance 5-0-6, c'est vrai que ça paraît... à l'époque, moi, avec 4-70 ou les autres filles, hein, qui tournaient dans les mêmes sphères ou à 4-80, quand la personne vous met 20-26 cm dans la figure ou 36 cm, c'est quand même conséquent. Donc, c'est vrai que sur certains événements, elle était bien au-dessus. Elle était intouchable quand elle faisait ses records du monde et quand elle... je sais pas combien de fois elle a fait le record du monde, mais c'est plus de 30 fois aussi, quoi.
Elle marchait sur les pas de Boubka là-dessus.
Oui. Ouais. Donc, un peu un être à part dans ce domaine.
Mais il y en a régulièrement. On a du plantis chez les hommes en ce moment.
Oui, exact.
À la perche, c'est assez fréquent.
C'est un extraterrestre aussi.
Mais ce que je voulais dire, c'était tes performances à toi, elles étaient certes 36 cm en dessous du record d'Isin Baeva à l'époque, mais aujourd'hui, elles te permettraient d'être toujours ultra performante au niveau national d'abord, plus de 10 ans après. Est-ce que tu as le sentiment que la discipline stagne ? En France et à l'international, d'ailleurs, il y a toujours très peu de filles qu'on peut sauter à 5 mètres.
Disons que je crois qu'il y a eu des périodes où c'était un petit peu plus relevé, il y a 2 ou 3 ans sur les championnats du monde, où les filles étaient à plus de 4,80 quand même, 4,90, donc là c'était quand même assez intéressant. Là sur les derniers championnats, je crois que c'est à 70, ça se classait plutôt pas mal, enfin il y avait même peut-être une médaille à 70 sur les championnats à l'extérieur. Donc après bon, il y a des périodes... Je crois qu'il faut des émulations, enfin de l'émulation, peut-être une tête de série pour que derrière ça rehausse un petit peu le niveau. Faut voir un petit peu comment ça va se passer sur les prochains mondiaux. On saura un petit peu plus.
Tu suis ça de près ?
Pas forcément. J'ai pris un petit peu de distance maintenant par rapport à l'activité parce que aussi, je crois que le fait qu'on soit pas forcément inclus dans le... Ouais, je sais pas comment dire ça, mais les fédés, c'est pareil.
Pas consulté
Pas consulté, pas invité. Ouais. Donc, il y a un moment, forcément, quelque part, on commence à prendre de la distance parce que parce que bah, je pense que c'est normal aussi à un moment.
Oui, et puis tu connais plus personne en activité, de ceux qui étaient avec toi.
Oui, alors si, moi, il y a Ninon que j'apprécie beaucoup.
Ninon Chapelle.
J'ai bien connu en, ouais, en stage, en compétition. C'était ma partenaire de chambre, on va dire, quand on partait en stage. Donc je suis un petit peu les performances, les péripéties, tout ça. Mais après, je regarde, là, il y a eu les championnats de France, j'étais un petit peu attentive aux performances. Voilà, c'est vrai que quelque part, je suis toujours intéressée quand il y a un championnat du monde ou un championnat de France, parce que je vais quand même regarder le résultat des perchistes pour voir un petit peu ce que ça donne.
Et il y en a qui te consultent ? T'as jamais été tentée de t'en conseiller ou...
Non. On m'a jamais trop consultée. Bon, après, encore une fois, c'est... Je sais pas, je me dis que c'est toute l'expérience qu'on a pu acquérir pendant des années, tout ça, ça tombe un peu à l'eau, je trouve ça dommage, en fait. Mmh. Je trouve ça, je sais pas, de la part de la Fédé, des clubs, voilà, ça serait intéressant, même si je suis pas forcément entraîneur, mais des fois, un petit regard extérieur, le fait de venir sur un stage, de pouvoir donner 2-3 conseils, des fois, ça pourrait être un petit peu... Ça pourrait aider peut-être de jeunes perchistes, mais ça se fait pas trop, on dirait, en France.
Et pourtant, on dit qu'en France, il y a une école de la perche. Tu y crois, c'est vrai?
On le dit souvent, oui. Après, il y a, on va dire que c'est les anciens perchistes, il y a pas mal d'anciens perchistes, tout le groupe un peu de Galfion, Gérald Baudouin... Marc Vandevoir, Gérald, enfin Gilles Daverbiste, eux ont tendance à se regrouper régulièrement. Après, chez les filles, où je ne vois pas forcément ça, en fait. Mmh. On n'a pas la même... je ne sais pas, ce n'est pas la même connexion, en tout cas.
Tu étais un peu esselé, toi, en France, à ton époque, quand même.
Bah, moi, je m'entraînais...
À ce niveau-là.
Oui. Après, je me suis beaucoup entraînée aussi avec les décathloniens, les heptathloniennes. Donc, j'étais un petit peu aussi en dehors du milieu de la perche. Et puis après, je me suis entraînée avec Gérald, donc j'étais un peu plus dans le milieu, mais moi, j'ai jamais vraiment ressenti cette famille de la perche, quoi. Sans...
Tu ne doutes pas qu'elle existe, mais tu l'as pas, mais tu l'as pas côtoyée.
Mais j'ai pas vraiment perçu, on va dire. D'autres certainement, mais moi un peu moins. Je pense que, je sais pas, j'étais aussi beaucoup dans l'esprit épreuve combinée, donc j'étais peut-être plus dans cette famille-là pendant une longue période, donc je me suis peut-être moins sentie dans cette sphère-là de la perche. Mmh.
Votre record de France dans 4m70, il a été battu 2 fois par Marion Fiac et puis dernièrement par Ninon Chapelle, c'est elle qui en est détentrice avec 4m75. Ça vous a fait quoi quand vous l'avez perdu, votre record ?
Bah, après, j'ai envie de dire comme un petit peu tout le monde, les records, c'est fait pour être battu. Après, moi, je suis très contente que ce soit Ninon qui l'ait battu, parce qu'elle a une belle histoire de vie. Et puis, c'est une bonne personne et c'est une bosseuse. Donc, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Donc, voilà, c'est forcément un moment en place à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui va amener justement... L'objectif, c'est que la perche féminine française, elle soit encore plus performante. Après, bon, il y a toujours un petit pincement quand on perce voilà, son record, mais ça fait partie du jeu, quoi. Enfin, moi, je l'ai volé aussi à quelqu'un d'autre, donc à un moment, il faut que ça tourne. Et si j'ai pu aussi créer cette émulation chez les autres personnes pour battre ce record, bah j'en suis fière, quoi. Voilà.
Mais tu as fait faire un bond à cette discipline chez les filles en France. Ça peut être une fierté, quand même.
Oui, je pense que j'ai fait partie un petit peu des pionnières, parce qu'il y avait Caroline Hamel à une période. Après, il y a eu Amandine Homo, il y a eu Marie Poissonnier. Et puis après, je suis arrivée dans la foulée. Et je pense que quand on est passionné... cette émulation qu'il y a pu avoir avec les filles à ce moment-là, bah ça, moi, ça m'a permis de franchir certains caps, en fait, et d'amener la discipline à 70. Mais moi, j'espère que chez les filles, là, prochainement aussi, ça va monter et qu'on retrouve un peu ces mêmes émulations et les mêmes progressions qu'il y a pu avoir. Oui.
C'est vrai qu'il y a un peu de ça en ce moment avec Margot Chevrier.
Bah oui, il y a une bonne dualité entre Ninon et
qui chasse le record
avec Margot Chevrier, oui.
Marie-Julie Bonin aussi, qui arrive
oui,
des espoirs.
Oui, alors c'est pareil, il y a le jeu. On a beaucoup d'attentes, en fait, avec Marie-Julie Bonin, parce que c'est une jeune athlète qui a des qualités exceptionnelles. Elle court super bien, elle est puissante, elle prend des bonnes perches. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que, pour en avoir discuté avec elle, c'est qu'elle ne sent pas trop ce qu'elle fait quand elle est en l'air. Mais le jour où elle va percevoir ça, elle va vraiment bien se repérer, arriver à avoir un bon repère dans l'espace, de bons repères dans l'espace. Je pense qu'elle va être incroyable, cette fille. Il faut la suivre parce qu'elle est assez exceptionnelle.
Voilà. Alors, j'espère que vous aurez tous noté.
Oui, il faut noter. Vanessa Boslak le dit.
Merci beaucoup,
avec
Vanessa.
Plaisir. Je vous remercie
pour ce riche témoignage.
C'est gentil, je vous remercie beaucoup.
Et merci, Nicolas.
Mais de rien.
Merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver ce podcast comme les autres de la série sur la plateforme Explore du site L'Équipe et sur les plateformes traditionnelles Deezer et Spotify. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes.
Merci.
Au revoir.